VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, l'ONU invite les partis en présence à trouver un consensus sur le processus électoral.
En République centrafricaine, Jean-Francis Bozizé, finalement remis en liberté provisoire.
Au Mali, de fortes pluies ont fait 17 morts et causé des dégâts matériels importants.
Au Soudan du Sud, de nouveaux affrontements ont été signalés entre les forces loyalistes et les ex-rebelles dans le sud-ouest du pays.
Ici aux États-Unis, un nouveau tollé après les dernières déclarations de Donald Trump.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, l'ONU invite les responsables politiques au consensus sur le processus électoral à 4 mois de l'échéance du mandat du président Kabila. Elle a lancé cet appel alors qu'une coalition d'ONG congolaises demande à l'ONU de retirer son soutien à la Commission nationale électorale indépendante qu'elle accuse de faire le jeu du pouvoir. Le point avec Eddy Issango.
Au-delà des questions techniques et logistiques, il faudrait que les acteurs politiques congolais de la majorité et de l'opposition puissent s'entendre pour s'écouter, discuter et trouver un consensus sur la façon dont ils veulent conduire les processus électoraux au Congo et communiquer cette information à leurs partenaires, a déclaré à Kinshasa les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mamadou Diallo. Pour lui, le consensus permettra à l'ONU de déterminer les niveaux, les rythmes et la séquence de son accompagnement au processus électoral. Mais ce dialogue a rappelé que l'ONU a un rôle d'accompagnement et de soutien, mais pas de substitution aux institutions congolaises. Les élections devant se tenir cette année ne pourront avoir lieu qu'en 2017, a récemment déclaré le président de la CENI, qui a lancé début juillet l'enrôlement des électeurs. L'opposition a récusé les facilitateurs désignés par l'Union africaine pour les dialogues politiques et accuse le président Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir au-delà de 2016 sans élection. M. Kabila ne devrait pas se représenter pour un troisième mandat selon la Constitution.
En République centrafricaine, Jean-Francis Bozizé est finalement remis en liberté provisoire. Le fils de l'ancien président centrafricain, François Bozizé, a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui. Il avait été arrêté le 5 août dernier et maintenu pendant 4 jours à la section des recherches et d'investigation. De Bangui, Freeman Sipil a fait le point.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalanya, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizé est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et des s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Mali, de nouveaux combats ont éclaté hier près de Kidal entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia. C'est ce qu'a appris l'AFP de sources concordantes. Toujours au Mali, des inondations ont fait 17 morts, dont 7 dans la capitale. Des dégâts matériels importants ont également été signalés suite aux fortes pluies de ces derniers jours. De Bamako, précision de Kassim Traoré.
Cela fait quelques jours que de fortes pluies s'abattent sur le Mali. Dans la capitale malienne, les inondations ont tué 7 personnes. Commandant Bakary Daou, directeur régional de la protection civile du district de Bamako par intérim.
à Bamako depuis le début de la saison pluvieuse. À nos jours, nous sommes au dernier conférence de presse du traité général de la prudence civile, c'était à 14 morts, alors que Bamako sur les avait 4. Là-dedans, actuellement, Bamako à 7, ça évolue du jour au jour. Et qu'effectivement, c'était à 14, mais cela a évolué au jour d'aujourd'hui.
À l'intérieur des pays, les eaux de pluie ont tué 5 personnes à Sikasso, 3 à Koulikoro et 1 à Ségou.
Demandez aux citoyens de ne pas se déplacer sur la faute, oui, et que lorsqu'on a en moto, en véhicule, n'est pas prudent, n'est pas bon de se déplacer sous la forte pluie. Pas à l'abri d'être emporté par les courants d'eau. On n'est pas à l'abri aussi des tonnerres, des décharges électriques.
Les eaux de pluie ont fait aussi beaucoup de dégâts matériels. Des maisons entières sont emportées par l'eau, surtout celles installées dans les lits des fleuves et marigots. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Soudan du Sud, de nouveaux affrontements opposent les forces loyalistes et les ex-rebelles dans le sud-ouest du pays, non loin des frontières ougandaises et congolaises. A-t-on appris hier de sources locales? Le point, Nani Talani.
Les combats entre les forces gouvernementales du président Salva Kiir et les hommes fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar ont éclaté à deux endroits proches de la ville de Yei, à plus de 150 km au sud-ouest de Juba. Selon Stéphane Ladou, ministre de l'Information de l'État de Yei, il se déroule à Mugo, une localité au sud de Yei située le long de Kaya Highway, un axe routier important menant vers l'Ouganda et une des principales voies d'accès vers Juba depuis l'étranger. D'autres combats sont signalés à Kimba, au sud-ouest de Yei, le long d'une route menant vers la République démocratique du Congo. En dépit d'un accord de paix signé en août 2015, les armes ne se sont jamais complètement tues dans le pays. Ces dernières semaines, après les combats de Juba, d'autres accrochages ont été rapportés entre loyalistes et ex-rebelles, non loin de la capitale ou encore dans le nord. Vendredi soir, l'organisation est-africaine IGAD a annoncé que le gouvernement sud-soudanais avait accepté, contre toute attente, le principe de l'envoi d'une force régionale d'intervention qui renforcera le contingent de 12 000 casques bleus déjà présents dans le pays. Des discussions sont en cours avec Juba sur le mandat de la mission, dont le déploiement devra faire l'objet d'un vote du Conseil de sécurité de l'ONU attendu d'ici la fin de la semaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, à la recherche d'un symbole fort pour marquer leur réconciliation, ont ressorti hier des tiroirs le gazoduc russo-turc TurkStream, mais avec des ambitions nettement plus modestes qu'à l'origine face aux réticences des Européens. Précision de John Lyndon.
À son annonce fin 2014, ce projet venait sceller l'amitié entre les deux chefs d'État. M. Erdogan offrait alors à M. Poutine une issue après le blocage par l'Union européenne, en pleine crise ukrainienne, du projet South Stream vers l'Union européenne par la mer Noire. Près de deux ans plus tard, ils marquent leur réconciliation après 9 mois d'une crise due à la destruction d'un bombardier russe par l'armée turque. Et il permet à la Russie de continuer à avancer ses pions sur le marché très géopolitique du gaz, en particulier dans le sud de l'Europe, où d'autres pays, du Caucase à l'Asie centrale, voudraient constituer une nouvelle concurrence. Le gazoduc TurkStream sera réalisé le plus vite possible, a assuré M. Erdogan. Vladimir Poutine a lui précisé que le projet resterait dans un premier temps confiné à l'approvisionnement du marché turc. La Turquie est le deuxième client du gaz russe après l'Allemagne.
Ici aux États-Unis, nouvelle controverse autour de Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle. Le tollé a été provoqué par une déclaration qu'il a faite en accusant Hillary Clinton de vouloir abolir le deuxième amendement qui garantit le droit de porter des armes.
Monsieur Trump a laissé entendre que seuls les défenseurs du port d'armes étaient à même de stopper son adversaire démocrate Hillary Clinton ou les juges qu'elle pourrait nommer à la Cour suprême américaine.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Aucune nouvelle médaille africaine hier à Rio.
Ah oui, le compteur reste bloqué à deux. Les deux médailles d'argent de la natation sud-africaine. Chad Leclos a raté le doublé hier en finale du 200 mètres papillon où il termine quatrième. Une course remportée par l'imbattable, l'inévitable Michael Phelps. 24 médailles aux Jeux Olympiques pour le nageur américain, dont 20 en or. Un record qui va être dur à battre dans l'histoire olympique.
L'exploit ce mardi en ping-pong pour l'Afrique.
Le pongiste nigérian Kwadri Haruna est devenu le premier Africain de l'histoire à atteindre les quarts de finale en simple de ping-pong aux Jeux Olympiques. En huitième de finale, Haruna, 40e joueur mondial, a sorti l'Allemand Timo Boll, ancien numéro 1 mondial. Il s'est ensuite incliné logiquement en quart de finale contre le numéro 1 mondial, le Chinois Ma Long.
Autre résultat mardi pour les représentants africains.
En natation sur 100 mètres nage libre, l'Ivoirien Thibaut Amani Dano, très loin derrière les favoris en 52 secondes, 78 centièmes, sans parler de l'Éthiopien Robel Kibos Apté, dont la photo a fait le tour du monde pour sa forme non olympique dans le bassin de Rio. Le dernier temps des qualifications pour l'Éthiopien en 1 minute 04 sur les tatamis de Rio, élimination du Gabonais Paul Kibikai chez les moins de 80 kilos, battu par le Japonais Takanori Nagase. Placé dans un groupe relevé, la Tunisie en handball masculin s'est à nouveau inclinée, cette fois contre le Danemark, 23-31. Et puis le Marocain Mohamed Arjaoui en boxe masculine dans la catégorie des moins de 91 kilos, éliminé tout comme le Congolais Mpi Anoel Ngamisenge en moins de 75 kilos. Dans la même catégorie, le Camerounais Dieudonné Wilfried Sein Senge s'est lui qualifié pour les 16e de finale. L'équipe kényane de rugby à 7 affrontait la Grande-Bretagne qui l'a emporté 31-7. Quant aux basketteurs nigérians, ils se sont inclinés 80-89 face à la Lituanie. Et en football féminin, les Sud-Africaines jouaient face au Brésil déjà qualifié. Et match nul 0-0, un score qui élimine l'Afrique du Sud. Autre élimination, celle des Zimbabwéennes après une nouvelle déroute, 6-1 contre l'Australie. Le point avec Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Pas de miracle pour les Zimbabwéennes qui clôturent leurs Jeux Olympiques de Rio comme elles l'ont débuté par une lourde défaite 6-1 face à l'Australie. Cette première participation de Maktai Warriors du Zimbabwe au tournoi féminin de football des Jeux Olympiques a finalement tourné à la correctionnelle. Trois défaites en autant de matchs dans un groupe F qui n'était visiblement pas à leur taille. Déjà éliminés après le 6-1 leur infligé par l'Allemagne d'entrée, puis la défaite 3-1 face au Canada lors de la deuxième journée, elles avaient pour seule mission de sauver l'honneur ce mardi contre l'Australie. Mais c'est finalement une nouvelle raclée qu'elles ont reçue. Seule consolation en dehors de l'expérience unique des JO pour les Maktai Warriors du Zimbabwe, le fait d'avoir inscrit à chacun de leurs trois matchs le fameux but de l'honneur. Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora.
Pour l'heure, au tableau des médailles, les États-Unis toujours en tête grâce à la natation, devant la Chine, puis l'Australie. Les Américaines ont par exemple remporté la médaille d'or par équipe en gymnastique. Les favorites ont répondu présentes, comme nous l'explique Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA à Rio.
La star de la gymnastique artistique féminine Simone Biles a décroché mardi sa première médaille d'or olympique en remportant le concours par équipes avec les États-Unis qui conservent leur titre. Les nombreux USA qui sont descendus des tribunes sont venus saluer la performance sans fausse note de Biles et sa bande qui devançant au final la Russie plus de 8 points. Nuit d'or pour Michael Phelps, le nageur américain, le plus grand athlète olympique de l'histoire, a remporté la médaille d'or sur 200 mètres papillon avec 4 pour 200 mètres relais. Phelps a nagé la dernière étape d'une heure après avoir remporté son médaille d'or numéro 20 dans le 200 mètres papillon. Avec ce succès, Michael Phelps entretient encore un peu plus sa légende. VOA Afrique, Alvaro Andrade, Rio de Janeiro.
À suivre ce mercredi.
En volleyball, Idrissa, les Camerounaises face à la Russie. Autre sport collectif, le basketball féminin et les Sénégalaises pour éviter une troisième défaite ce mercredi contre le Canada. En judo, chez les moins de 90 kilos, le Béninois Dosu Yovo. En sabre, le porte-drapeau de la délégation béninoise, Yemi Geoffrey Apiti, entrera en lice. Et puis en boxe, Dival Forele Malonga Zalamou pour le Congo-Brazzaville chez les moins de 64 kilos.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, John Lyndon.
Le continent africain totalise 41 milliardaires et leur fortune cumulée s'élève à près de 98 milliards de dollars. C'est ce que révèle le recensement 2015-2016 des milliardaires dans le monde, publié par WealthX, un cabinet de recherche singapourien. Le nombre des milliardaires en Afrique est en hausse de 2,5% par rapport à 2014. Leur fortune, elle, est en baisse de 14% par rapport à la même année. Les investisseurs internationaux considèrent le secteur de l'énergie renouvelable comme le plus prometteur en Afrique à l'horizon 2020. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de 55 institutions financières et bancaires et diffusée par Avas Horizon. Pour les investisseurs, 5 pays africains affichent des perspectives économiques intéressantes. Il s'agit de l'Éthiopie, du Nigeria, du Maroc, du Ghana et du Sénégal. Au Cameroun, l'on reparle du scandale de détournement de plus de 50 milliards de francs CFA à la BISEC, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit. 4 employés de cette filiale du groupe français Banque Populaire, ainsi que 2 prestataires de services, ont été placés en détention provisoire à la prison centrale de Douala pour faux, usage de faux et abus de confiance aggravé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudiane, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au lendemain de l'investiture d'Idriss Déby Itno, le député de l'opposition tchadienne Saleh Kebzabo a été entendu comme témoin par la police judiciaire dans l'affaire des militaires disparus. Le procureur l'avait déjà convoqué 2 semaines auparavant, mais ses avocats avaient contesté la procédure, étant donné l'immunité parlementaire dont jouissait M. Kebzabo. Celle-ci a donc été levée pour les besoins de l'enquête. Nathalie Barge a joint Saleh Kebzabo hier.
Je suis honoré d'être la première personne qui a été reçue par la police judiciaire pour inaugurer le quinquennat de Idriss Déby. Et donc voilà, je suis resté là-bas quelques temps avec eux. Ils m'ont posé toute une série de questions auxquelles j'ai répondu, d'autres auxquelles je n'ai pas répondu. Et je pense qu'ils vont faire un rapport au procureur qui appréciera certainement dans les jours qui viennent, très rapidement. Lorsqu'un homme politique fait l'objet d'interpellations de quelque genre que ce soit, il est difficile de ne pas y voir un caractère politique. Mais toujours est-il que moi, je pense, comme je l'ai dit à la police judiciaire, cette affaire date de la période électorale et post-électorale immédiate. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir remuer le couteau dans la plaie ressemblerait tout au moins à une sorte de provocation politique ou tout au plus à une sorte de règlement politique, règlement de compte, bien entendu. Là, je ne suis pas témoin, je ne suis pas militaire. Il faut demander au chef suprême des armées qui est Déby lui-même, puisque Déby a dû signer un décret pour démettre le secrétaire-major de l'armée de l'air et son adjoint immédiatement après ce vote, parce qu'il était établi que à l'armée de l'air, on a voté contre Déby. Nous avons battu Déby. Donc c'est une affaire qui vient de très loin. Je souhaite beaucoup de courage, comme je l'ai dit au procureur.
Parlons du FONAC, M. Kebzabo. Je crois qu'il y a eu 3 défections. Pourriez-vous nous en parler? Pourquoi ces défections?
Il y a 3 défections. Je pense qu'il doit y avoir 23 parties qui sont restées. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura d'autres adhésions. Donc je pense que 3 défections, si c'est vraiment 3, ce n'est pas important. Il faut voir ceux qui restent, qui vont faire un grand travail dans l'entente, dans la détermination, plutôt que de voir les chevaux qui ont abandonné la course au bout de quelques tours de piste.
Mais comment vous expliquez le fait que Gali Ngotegata ait quitté votre plateforme?
Je ne sais même pas d'ailleurs si Gali a fait défection, parce que nous a dit qu'à son retour, il y aurait un débat sur la question, mais nous l'attendons pour en discuter. Mm-hmm. En tout état de cause, nous espérons tout simplement que les autres groupements tiendront le coup pour qu'ensemble, demain, on mène une lutte implacable contre ce système que nous combattons depuis longtemps.
Et vous pensez que c'est possible que Idriss Déby puisse accepter une rencontre, un dialogue national d'égal à égal?
Le bon sens et l'amour de la patrie devraient l'y conduire. Et je crois que dans l'intérêt de son pays, s'il aime réellement le Tchad, il va s'asseoir avec les autres Tchadiens pour discuter de l'avenir de leur pays et voir ensemble qu'est-ce qu'il est bon de faire pour que notre pays ne soit pas définitivement dans le chaos.
L'opposant tchadien Saleh Kebzabo, joint N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Kinshasa a révoqué le visa de la chercheuse principale de Human Rights Watch en République démocratique du Congo, Aïda Soy. Il refuse de justifier sa décision, mais l'ONG américaine accuse de son côté le pouvoir congolais de vouloir museler les défenseurs des droits de l'homme ainsi que tous ceux qui s'opposent au prolongement du mandat du président Joseph Kabila. Eddie Sango a joint à Londres la directrice de plaidoyer auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, Anneke van Woudenberg.
Ce n'est pas une question d'un visa qui est expiré, comme ils ont fait avec des activistes congolais. Maintenant, ils sont en train d'expulser ou de forcer des activistes des droits de l'homme internationaux de quitter le pays aussi et de ne pas parler de la situation des droits humains au Congo.
Est-ce que vous pensez que cela est lié à l'approche des élections?
La répression politique augmente. C'est pratiquement impossible qu'il y aura ces élections avant la fin de cette année. Il y a beaucoup de critiques de plusieurs partis par rapport à ça. Et les gens qui parlent contre le prolongement du président Joseph Kabila sont vraiment ciblés par le gouvernement. Des journalistes, des activistes des droits de l'homme, des jeunes activistes. On a vu ça pendant les dernières 18 mois, qu'il y a une répression politique qui augmente et qui est très sérieuse. Et je pense que cette demande de la gouvernement congolais que Mme Soy quitte le Congo, c'est totalement lié à ça.
Mme Ida Soyer a joué un rôle principal dans les dénonciations sur l'opération anti-banditisme à Kinshasa qui a exposé le gouvernement congolais à des sanctions même de la part de Washington. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas pour cela?
C'est notre travail de dénoncer ça. La façon maintenant où le gouvernement essaie de museler les activistes des droits de l'homme comme Human Rights Watch donne l'impression que ce n'est pas un gouvernement qui veut respecter l'état de droit. C'est un gouvernement qui est contre, en fait, les droits humains et qui essaie seulement de silencer des gens qui le critiquent. Et c'est quelque chose qui est sérieux et inquiétant.
Qui va faire Human Rights Watch maintenant? Est-ce que vous allez envoyer une nouvelle chercheuse? Qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Les choses que le gouvernement congolais doit faire, c'est de révisiter cette question de visa pour Mme Sawyer et plusieurs d'autres activistes qu'ils ont expulsés pendant les dernières quelques mois. Parce que Mme Sawyer n'est pas la première. En fait, l'année passée, ils ont expulsé le directeur des droits humains de la Nations Unies, M. Scott Campbell. Il y a quelques mois, ils ont expulsé un autre chercheur qui aussi a documenté plusieurs des violations des droits de l'homme, M. Jason Stearns. La mois passée, ils ont expulsé deux activistes de l'ONG Global Witness. Donc, ce n'est pas seulement Human Rights Watch qui est ciblé.
Anneke van Woudenberg, directrice de plaidoyer auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, basée à Londres.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Burkina Faso incitait les leaders africains à de nouvelles politiques en faveur des jeunes vulnérables et déscolarisés en Afrique et aboutir à leur autonomisation. C'est le péri du groupe de travail sur l'éducation non formelle qui lance un concours de révélation de talents des jeunes. Cette ONG entend mettre à l'abri ces jeunes en leur offrant une chance à travers le concours baptisé Zanke Faba, appui aux jeunes en langue sonraï. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Zanke Faba se veut un réseau d'information et de communication qui vise à partager les meilleures pratiques pour une intégration sociale et professionnelle des jeunes déscolarisés trouvés dans un état de vulnérabilité. Le but est d'interpeller à travers un concours les États africains sur le sort d'une certaine jeunesse qui, pour une raison ou une autre, n'a pas accès à l'éducation. Un véritable plaidoyer du groupe de travail sur l'éducation non formelle dirigé par le professeur Ibrahim Balalia.
On s'est dit peut-être que si on faisait un système pour promouvoir ces innovations, ils vont servir d'exemple aux autres. Donc on a pensé qu'un concours où on va sélectionner 3 ou 4 meilleurs et on va propulser leurs innovations, faire inspirer d'autres enfants.
Le projet Zanke Faba, dans son application, veut toucher tous les responsables et leaders à différents niveaux en Afrique sur le sort de ces jeunes vulnérables, dont nombre d'entre eux possèdent des talents qui pourraient améliorer leurs conditions de vie, tout en les mettant hors de portée des réseaux de délinquants et de recrutement de djihadistes.
On avait fait une étude au Nigeria en 2009. On avait trouvé qu'il y avait 9 millions de cette catégorie. Malheureusement, certaines de nos recommandations n'ont pas été mises en œuvre. On aurait pu peut-être au moins récupérer, même si c'est un seul enfant, de guérilla, de la misère, de l'assassinat. Et on avait dit qu'il faut faire attention à ces jeunes, tellement on est Boko Haram qu'on a des difficultés à éradiquer.
Certains partenaires de la jeunesse ont déjà une oreille très attentive à la démarche. Rinko Kinoshita est la représentante adjointe de l'UNICEF au Burkina Faso.
Cet concours a des moyens pour encourager des gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au développement de la société? Parce qu'ils ont des capacités, ils ont des potentiels. Ils ne réalisent pas ça.
Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou ceux qui l'ont abandonné ont ici l'occasion de révéler un certain savoir-faire. Docteur Sylvestre Ouedraogo, consultant du projet.
Nous voulons faire des compilations de témoignages afin de faire des études de cas, montrer des trajectoires de vie de jeunes. Ils peuvent postuler en avance sur le site web zankefaba.gtnf.org.
Ce concours, qui dure jusqu'au 11 septembre, devra recevoir et apprécier des articles, photos et vidéos sur des thématiques et secteurs d'activité innovantes en Afrique. 3 jeunes pour cette étape initiale vont recevoir des outils numériques pour soutenir leur progression et leur insertion dans la vie professionnelle. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Cela fait 2 ans cette semaine que la ville de Ferguson, dans l'État américain du Missouri, sombrait dans la violence à la suite de la mort de Michael Brown, adolescent noir de 18 ans, abattu par un policier blanc. À la demande du ministère américain de la Justice, la police de Ferguson a accepté cette année d'amorcer des réformes pour tenter de résoudre certains des problèmes identifiés par une enquête fédérale. Les précisions de Lionel Gahima.
Tout a commencé lorsque le policier Darren Wilson a abattu Michael Brown lors d'une confrontation dans la rue. La mort de l'adolescent a déclenché une vague de manifestations populaires et de violence. Francesca Griffin, habitante de Ferguson, s'en souvient encore.
There's just a line of police officers and they've got full riot gear on. They've got their guns pointed at us.
Il y avait une rangée de policiers anti-émeute pointant leurs fusils sur nous. Les femmes et les enfants sont partis d'un côté alors que les jeunes et les adolescents sont restés sur place dans un face-à-face avec les policiers.
They just stood up, you know, like they held their ground.
La décision des autorités judiciaires de Ferguson de ne pas engager des poursuites contre le policier Darren Wilson a mis de l'huile sur le feu. Pour la mère de Michael Brown, Leslie McSpadden, ce qu'il a fait est inacceptable.
Il a manqué de respect aux gens respectueux de l'uniforme et du badge de la police. Il a mis en danger la ville et beaucoup d'autres policiers.
La mort de Michael Brown a fait naître le mouvement Black Lives Matter, les vies de Noirs comptent, et donné le coup d'envoi d'un débat sur les brutalités policières et la réforme de la justice pénale. Une enquête fédérale a établi que la police de Ferguson, à majorité blanche, s'est livrée au profilage racial et à un usage excessif de la force. Pour le révérend Willis Johnson, un pasteur de Ferguson, les choses n'ont pas tellement changé.
Il y a toujours une tension, un malaise, une incertitude dans l'interaction et les relations entre les individus. Et l'attitude de la police n'est pas seulement limitée à Ferguson, elle s'étend à toute la région.
Pour DeCarlon Seawood, administrateur municipal de Ferguson, les efforts ont été déployés, mais beaucoup reste à faire.
Vous n'allez pas résoudre des problèmes de plusieurs années d'un seul coup. Cela prendra du temps et un long processus. Nous devons assurer le suivi des procédures que nous mettons en place.
Aujourd'hui, la police de Ferguson a un nouveau chef, un noir, et des nouvelles formations sont prévues pour les policiers. Certains membres de la communauté demeurent tout de même sceptiques, d'autres se sont organisés pour faire pression sur les dirigeants de Ferguson afin qu'ils appliquent les mesures imposées par le gouvernement fédéral.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.